Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée proposée par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Lors de notre dernière émission, nous avons commencé à dialoguer avec Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Paul.
Salut.
Et Christophe.
Salut.
Et nous avons commencé à échanger sur les rapports entre la construction de l'identité et la religion. Vous savez que la Fédération de la Libre Pensée est une association qui défend la laïcité, mais qui remet en question assez nettement la possibilité de s'émanciper avec les religions. Et l'angle que nous avons choisi de traiter à nouveau aujourd'hui, c'est la question du vécu queer en religion, queer étant le terme le plus inclusif. C'est ce que Christophe nous expliquait lors de la dernière émission pour inclure LGBTI.
QIA+.
QIA+, merci. J'étais sûre d'en oublier. Si vous n'avez pas entendu notre précédente émission, je vous invite à la podcaster. Elle vous permettra de voir, justement, d'après les témoignages de nos trois invités, la place prise par la religion dans leur histoire personnelle et les moments forts où la religion a paru soudain peut-être entrer en conflit, enfin peut-être sûrement entrer en conflit avec l'identité que Paul, Mohamed ou Christophe ont perçu être la leur. Christophe, tu nous avais dit la dernière fois qu'un prêtre avait lancé ça passera, conseillé quelques prières. Mohamed, tu avais dit que manifestement tu sentais qu'il fallait pas vraiment en parler, qu'il y avait une hostilité de la religion par rapport à ton identité. Et Paul, tu dis aussi que par rapport à ta famille, tu avais préféré être discrète, en tout cas on n'avait pas forcément été hostile, mais sans vraiment entrer dans un dialogue avec toi sur ce sujet. Alors j'aimerais bien commencer cette seconde émission sur le thème en vous demandant si justement, voyant qu'il y avait un conflit entre le discours tenu dans les religions et votre identité, vous avez décidé de couper avec la religion, et éventuellement, est-ce que cela signifie aussi de couper avec sa famille ?
Dans mon cas, c'était un peu plus au niveau de la religion, où je me suis dit que fallait que je trouve autre chose, fallait que je me fasse mon propre truc, que voilà. Mais en même temps, je ne vois pas, j'ai besoin de croire. Du coup, je trouvais ça assez dur d'arrêter. Puis il y a eu toute une période où, quand on se remet en question, il y a toute une période où il y a la dépression qui nous guette aussi. Parce que du coup, en fait, c'est pas... Enfin, quand on est une personne LGBT, on est... je dis pas que toutes les personnes LGBT passent par des troubles psy, mais je connais beaucoup de personnes qui sont LGBT et qui ont des troubles, qui sont passés par la dépression, ce genre de choses. Toute cette remise en question est assez difficile parce que du coup, souvent, on est seul à les affronter ou on est souvent pas vraiment super bien accompagné. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et moi, dans mon cas, c'était assez complexe parce que j'avais pas vraiment de famille à qui je pouvais le dire. Les personnes à qui je pouvais en parler, c'était pas vraiment des personnes qui me connaissaient ou qui me connaissaient très peu. Et donc, du coup, j'ai eu une période où j'y croyais plus. Mais c'était plus par rapport au fait que j'avais plein de choses à gérer. Je devais prendre soin de ma santé mentale, etc. Donc, du coup, j'ai eu un passage à vide. Mais après ça, j'ai fini par me dire que, enfin, comme je disais, au fur et à mesure de mes, des témoignages que j'ai pu avoir dans des films ou dans des émissions, dans des séries. Enfin, c'est là où les représentations sont vraiment importantes parce que du coup, il y a beaucoup de représentations qui m'ont aidé à me nourrir et à me faire aller de l'avant. Et okay. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu rebondir et me dire j'ai jamais eu ce truc d'être hyper religieux. Mais j'ai quand même envie d'y croire en quelque chose. Et donc, du coup, voilà.
J'ai plus l'impression d'une solitude, en fait, par rapport à cette question-là, mais sans couper avec, avec la religion pour autant. Alors que Mohamed, je crois que qu'un des mots-clés dans ta situation, si je me souviens, c'était le mot hypocrisie. C'est-à-dire que tu avais ressenti l'hypocrisie, peut-être, autour de toi et par rapport à tes convictions, à ton identité.
Oui, parce qu'il y avait le. Comme j'ai dit, des deux côtés, qu'il ne fallait pas parler de sexe en général, c'est pas juste la communauté queer. Il ne fallait pas parler de sexe en général, mais en même temps, il y avait par exemple le prof qui bavait pour les vierges. Donc oui, je ne sentais pas que... J'étais pas à l'aise pour parler. Et, mais là, en fait, parce que là, j'ai 35 ans, c'est pas très grave pour moi. C'est pour ça, en fait, je suis là. Parce que si je connais quelqu'un qui va l'écouter, c'est pas très grave. Pour moi, c'était important, quand mes parents n'étaient pas en France, c'était de protéger mes parents de la société. Parce que j'habitais dans une petite ville où mon père était très connu et je viens d'une famille... un peu sacrée famille, respectée par tout le monde, assez religieuse et tout. Donc, je voulais pas je voulais pas que les gens, gênent mes parents ou dérangent mes parents. Donc, c'était juste pour leur protéger. Mais après, pour moi, c'est vrai que j'ai pas fait mon coming out, mais c'était juste pour eux, pour protéger les deux, parce que ma mère a des problèmes de santé, mon père a des problèmes de santé, donc c'est tout.
Mais donc voilà. le regard n'était pas que le regard de la famille, c'est aussi le regard de toute la micro-société autour de la famille dans cette petite ville qui a un regard qui pèse comme ça sur toi, alors en fait, à ce moment-là.
Oui, mais c'était vraiment pas vraiment pour toi, c'était comme je dis, c'était par rapport à la famille, c'était par rapport à mes parents. J'ai essayé, j'aimerais bien penser que je protège mes parents, c'est tout. Mais pour moi, parce que là j'habite, ça fait 4 ans que j'habite avec mon copain, et il m'a dit une fois, mais tes parents sont venus 2 fois chez nous, il y a un seul lit, il y a une seule chambre, ils n'arrivent pas à comprendre. Je lui dis, je ne sais pas, mais je ne vais pas changer le déco de mon appartement juste pour... Là, j'arrête. J'essaye de les protéger de la société, mais je veux vivre ma vie aussi. Donc, je pars en voyage avec lui. Je fais des vacances, je suis toujours avec lui. Et donc, pour moi, c'est plus une question est-ce qu'ils savent ou pas. C'est pas mon problème.
D'accord. Et Christophe, est-ce qu'il y a eu une coupure avec la religion, coupure avec la famille, peut-être ?
Alors, avec la famille, non. Parce que j'ai toujours été assez accepté, quand même. Même si, ça pouvait être tabou, mais déjà, ne pas en parler, finalement, c'est mieux que le rejet, j'ai envie de dire. Donc, finalement, de ce côté-là, ça allait. Par contre, la religion, oui. Ça a été un parcours assez difficile parce que, comme je disais, en fait, la religion, ça avait une place vraiment très importante dans ma vie. Ça structurait beaucoup de choses pour moi. Et en fait, tous les signes qui m'indiquaient que j'étais anormal, que ce que je ressentais, c'était mal... le chemin, c'était l'enfer, parce que, en fait, c'est les mots, hein, c'est les mots. En fait, tout ça s'est accumulé, et en fait, au bout d'un moment, je tenais plus. C'est-à-dire que la religion m'aidait, c'était un soutien psychologique, mais d'un autre côté, elle m'écrasait aussi, en fait. En fait, c'était ce conflit entre... cette transcendance divine à laquelle il fallait que je croie, qui s'exprimait dans ce livre qui était tellement sacré, face à l'immanence de mes désirs, le fait que c'était, je pouvais pas le nier, et que c'était en fait bien pour moi de pouvoir me développer affectivement, sexuellement, ça fait partie de la vie de tout être humain en fait. Et en fait, le conflit est devenu insupportable, et j'ai eu une période de vraiment de dépression assez sévère quand même. Et puis un jour, je suis tombé sur les pires versets que j'ai rencontrés dans la Bible. C'était pas directement sur l'orientation sexuelle. En fait, c'était les règles qui régissent le mariage. Je sais plus dans quel chapitre exactement. En fait, quand j'ai lu que si un homme trompait sa femme, on lui coupait la main, mais que par contre, si une femme trompait son mari, on la lapidait. En fait, ce que je me suis dit, c'est ce que je suis en train de lire là, c'est impossible que ce soit divin. Voilà. En fait, là, je me suis révolté. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de me révolter contre ces institutions millénaires. Et donc là, j'ai jeté ma Bible au bas de mon lit et j'ai dit, mais c'est de la merde, en fait. Et voilà.
Et donc après, sans en parler à justement quelqu'un qui pouvait faire référence comme un prêtre qui paraissait ouvert au dialogue, qui peut, parce que moi, pour le coup, pour avoir aussi fréquenté des prêtres, certains étaient ouverts au dialogue, mais pour dire qu'il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre, que certaines parties de ces textes étaient effectivement des textes qui valaient dans une société archaïque et qu'il ne fallait plus s'en préoccuper, que ces histoires étaient des fictions, qu'il ne fallait pas prendre comme des histoires véritablement menaçantes. Non, il n'y a pas eu ce genre d'explication par quelqu'un de la religion.
Moi, je pense qu'il y a vraiment un double discours constant des personnes qui défendent les religions. De dire à la fois, c'est réel, c'est la parole de Dieu, littéralement, mais en même temps, ah mais non, mais là, il faut interpréter, c'est le contexte, tu comprends. Par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est normal, Dieu était plus dur. C'était parce que les hommes n'étaient pas encore bien éduqués. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, alors là, on se pardonne, à tire-larigot, il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a une espèce de double discours qui fait du mal aussi.
Est-ce que vous étiez sensible à des discours qui étaient tenus par les autorités religieuses quand elles sont médiatisées? On a parfois dans la presse, dans les médias, des informations sur une déclaration du pape, une déclaration d'un imam sur tel ou tel sujet. Est-ce que ce sont encore des discours auxquels vous êtes attentif et attentive? Ou bien là, vraiment, vous avez mis à distance et ça ne vous préoccupe plus?
Alors, moi, ça me préoccupe plus vraiment parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence qui avait été perdue parce que alors je pense que si vous voulez rejeter quelque chose, vous pouvez le rejeter en bloc, il n'y a pas de souci, mais il faut rester cohérent. Faut pas que ce soit aujourd'hui c'est ok et puis le lendemain c'est plus ok et puis les gens sont en mode oui, d'accord, elle a dit, par exemple, le pape, il a dit telle chose, donc du coup, c'est bon, c'est ok, maintenant, on peut le faire. Alors que, je suis désolée, on est des êtres humains, on a notre libre arbitre, et si vous voulez pas, enfin, si vous voulez accepter quelque chose, faut l'accepter, mais en bloc. Enfin, faut pas. Enfin, je trouve que c'est pas cohérent, et puis, ça donne une image vraiment. Ça donne une mauvaise image, je trouve. Et du coup, c'est ça que je me suis désintéressée aussi à ça. C'est parce que du coup, je trouve ça un peu dommage que... Enfin, je respecte sa parole, ce qu'il dit, etc. Mais non, c'est pas possible de dire oui, non, enfin... Enfin bref.
Encore un manque de cohérence.
Pour moi, je regarde de temps en temps ce genre de vidéos, mais pour moi, c'est vraiment... C'est pour rire. C'est pas plus. Parce que... ils disent des trucs ridicules. Je me souviens que, par exemple, pendant la période de Covid, il y avait un imam qui a parlé que c'est à cause des homosexuels. Et pour moi, ce genre de truc, ça me blesse pas, en fait. Ça me fait rire qu'il ait obsédé avec l'idée de l'homosexuel au point où tout est de leur faute. Il réfléchit que à ça. Et pour moi, je dis toujours que s'il y a quelqu'un qui est vraiment occupé avec une autre personne, tout le temps pour blesser cette personne, pour faire du mal, ça veut dire que la première personne n'est pas contente dans sa vie. Parce que quand on est content, quand on fait un truc qu'on aime bien dans la vie, on n'a ni l'énergie, ni le temps pour faire, pour blesser quelqu'un ou pour essayer d'écraser quelqu'un. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc pour rigoler, pas plus. Ça me blesse pas. Je m'en fiche un peu ce qu'ils disent. Après, c'est, oui, il y a le côté que il y a un effet pour les personnes qui vivent là-bas. Donc, j'essaye d'en parler. J'essaye d'en parler pour les personnes parce que, à la fin, pour moi, c'est que je viens de cette communauté. Je viens de cette société où tout est interdit. Pas juste le mariage, mais juste même les relations et tout ça, c'est interdit. Donc, j'essaye d'en parler pour les gens qui sont toujours là-bas. Pour moi, bien sûr qu'il y a l'homophobie ici, il y a beaucoup de problèmes. Je souffre de racisme de temps en temps. Mais c'est moins que les autres qui sont là-bas. Donc, j'essaye de voir, voilà, pour deux raisons, pour rigoler, en même temps, pour parler de ce genre de trucs que ça se fait pas et c'est pas juste.
D'accord. Et Paul, en particulier, il me semble, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même un besoin de croire à un moment donné, que c'est quelque chose qui était très très fort. Est-ce que ce besoin, il est toujours là? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est peut-être que là, dans la religion qui était la mienne, je n'ai pas trouvé l'écoute et l'ouverture d'esprit, le respect de ma personne que j'attendais, mais est-ce qu'il y a encore un besoin de croire qui orienterait vers une autre religion?
Alors oui, j'ai essayé, j'ai voulu à un moment donné voir les autres religions. Et c'était la même période où il y avait Jérémy Ferrari qui faisait son spectacle où il avait lu plusieurs livres religieux et bref. Et je me suis dit pourquoi pas, je devrais essayer de faire la même chose, peut-être que je trouverais quelque chose qui m'irait. Et mais le truc, c'est que je ne le sens pas. Enfin, j'ai beau essayer de m'intéresser aux autres. Enfin, je me suis intéressée au judaïsme, à deux, trois autres religions. Mais, non, en fait, pas vraiment. Mais j'ai quand même ce truc où je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui me protège. Parce que certaines choses, quand elles arrivent, j'ai envie de croire que c'est arrivé pour une raison et que tout a une signification. Mais après, ça c'est juste moi, j'aimerais être ce genre de personne qui peut vivre sans croire. J'ai un ami qui me disait, mais moi je crois aux licornes, c'est pas pour autant que j'essaie de faire croire aux autres aux licornes. Mais je dis oui, je comprends ton idée, mais je sais pas, j'ai juste besoin de croire en quelque chose. Peut-être pas le formuler, peut-être pas lui donner un label. Une étiquette, dire ça, c'est telle chose.
Peut-être pas une religion instituée, peut-être une croyance peut-être en un dieu, mais sans religion reconnue, instituée peut-être.
Je m'intéresse beaucoup, comme je disais, à la mythologie, donc des fois ça m'arrive de me dire, de me demander c'est quel dieu qui s'occupe de, par exemple, la dernière fois je cherchais, je me rappelais plus, je sais qu'il y avait Morphée, Nyx, et je cherchais le troisième, le père de Nyx, non, le mari de Nyx, et du coup, juste parce que du coup c'est des trucs qui m'intéressent, c'est des trucs où je me dis, Ça pourrait être intéressant. Par exemple, la nuit, comment faire si j'ai du mal à dormir, me dire, je demanderais bien à Morphée qu'il puisse me laisser en paix, que je puisse avoir une nuit reposante et rassasiante. Et ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment dans ma personnalité, dans mon comportement. Je me dis juste, il faut que je dorme, j'essaie d'être rationnelle, il faut que je dorme, il faut que j'aille me coucher plus tôt, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
Oui, c'est peut-être plus sûr que de chercher le pouvoir de Morphée.
Oui, voilà. C'est, je trouve que c'est efficace. Parce que c'est comme le pouvoir des pierres aussi. J'ai une amie qui croit en la lithothérapie, mais même chose. Je trouve ça joli. Du coup, je veux bien qu'elle m'offre des bracelets pour me protéger, pour mes chakras et tout ça, mais même chose.
Donc, les religions ont été mises très, très à distance
oui.
depuis. Et Christophe, parce que toi aussi, tu disais que la religion était vraiment très, très importante dans ton histoire, dans ta formation. Alors finalement, ça a été une rupture complète ou à un moment donné, il y a une sorte de manque qui fait qu'on cherche autre chose?
Moi, j'ai glissé progressivement, mais assez rapidement, dans l'athéisme. Mais c'est vrai que je suis passé un peu par toutes les phases. Au début, je me suis dit allez, déiste, ensuite agnostique, ensuite athée. Voilà, j'ai glissé progressivement jusqu'au bout. Ouais. Mais tu nous parlais des. Je me permets, tu nous parlais des institutions religieuses, de leurs discours. Moi, je me désintéresse de ce qu'ils disent en général. Mais par contre, au local, je m'intéresse à ce qu'ils disent et ce qu'ils propagent. Et c'est vrai que, par exemple, à l'époque où j'étais dans les camps d'été catho avec le diocèse de Nancy, on avait un fameux animateur assez connu qui, au début du camp, nous disait « Si vous avez des désirs pour des personnes du même sexe, vous êtes anormaux. » Voilà. Et cette personne était en charge du service du diocèse pour aider les gens, pour aider les jeunes en questionnement sur le genre, la sexualité, tout ça. Donc, finalement, au local comme dans leurs institutions, il y a du ménage à faire. Et voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a souvent on entend un discours d'ouverture et de bienveillance de la part de certaines religions ou de certains religieux, mais dans la réalité, parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas très, très ancien, ce camp que tu évoques, une dizaine d'années.
Oui, voilà.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure cette émission à des personnes qui nous écoutent et qui ont, comme vous, un parcours plus ou moins difficile par rapport à la question de l'identité et la mise à distance de la foi, cette marche difficile vers l'émancipation? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour eux-mêmes? Et puis peut-être avez-vous des informations à nous livrer sur des associations, des endroits où ils peuvent venir parler?
Alors, moi j'ai envie de leur dire vous êtes précieux, vous êtes réel, vous vivez dans l'ici et le maintenant, vous pouvez constater que vous êtes réel, vous valez vraiment beaucoup, donc laissez tout ça derrière vous. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et sinon, pour ceux qui ont quand même une spiritualité prononcée, ce que je peux comprendre, parce que ça apporte beaucoup de réconfort, notamment, il y a quand même des courants religieux, chrétiens et musulmans notamment, qui ne sont pas dans le rejet des personnes, notamment le mouvement David et Jonathan pour les chrétiens, et par exemple la mosquée inclusive de Marseille aussi, ce sont des mouvements qui font un travail pour... pour accueillir les personnes, qu'elles soient religieuses, voilà, qu'elles puissent continuer à vivre leur religion sereinement.
D'accord.
Moi, j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup réconfortée quand j'allais pas super bien. La chose, c'est qu'avec le temps, tout va pour le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour l'instant, on ne voit pas c'est quoi le dessin, enfin, c'est quoi l'image globale. Mais à force, au fur et à mesure où on avance, l'image se dessine et on finit par toujours découvrir l'image globale. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué parce que du coup, sous le coup, on se dit, mais c'est quoi cette histoire d'image, d'avancer, avec le temps, enfin, mais juste... Faites confiance et vous verrez, ça finira par se décanter. C'est vraiment une question de temps. Et même si on a l'impression qu'on a gagné un droit, mais on a perdu un bras, mais il y a toujours quelque chose derrière, quoi. Enfin, faut pas lâcher l'affaire.
D'accord. Gardez espoir. Mohamed.
Alors moi, j'aimerais bien utiliser une phrase qui n'est pas la mienne. C'était, je sais pas si c'est la phrase exacte, mais je me souviens de Harvey Milk, qui était un militant de communauté LGBT aux États-Unis. Il avait une phrase, il dit, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de soucis chez vous, et Dieu ne vous déteste pas. Pour moi, je ne crois pas en Dieu. Il y a déjà ça, mais j'aimerais bien croire que s'il y a un Dieu, il va pas juger les gens pour leur sexualité ou pour leur genre, parce qu'il y a des trucs plus importants que ça.
D'accord, merci. Est-ce qu'on peut dire que vous appartenez, alors vous allez me dire peut-être que vous n'êtes pas tous adhérents de l'association, mais en tout cas on peut dire un mot d'Equinox. Je ne sais pas si vous êtes tous adhérents à...
Oui, alors,
juste dire un mot d'Equinox. Qu'est-ce que Equinox ? Est-ce que c'est un lieu où on peut venir échanger, justement ? Je pense que oui.
Alors, Equinox, c'est le centre LGBTI+, de Lorraine Sud.
Et, à Nancy.
Qui est à Nancy, dans le centre, à la 5 Place Carnot. Et... Il y a plusieurs activités possibles, il y a plusieurs commissions, il y a une commission asile, il y a une commission transgenre, il y a une commission convivialité et culture. Enfin, il y a plusieurs commissions si vous voulez vous impliquer, mais si vous voulez juste prendre un café et discuter avec les gens, vous pouvez venir le samedi, c'est une permanence mixte. C'est une permanence généraliste où tout le monde peut venir, etc. Et il y a une fois par mois une permanence transgenre qui est le dimanche, le premier dimanche généralement, où les personnes transgenres et non-binaires peuvent venir.
D'accord, merci. Donc c'est un lieu où, si vous avez envie d'échanger, de discuter et de faire la rencontre de personnes ouvertes, vous êtes donc les bienvenus. Je vous remercie vraiment très sincèrement, Mohamed, Paul et Christophe, pour ces témoignages et cette réflexion que ces témoignages suscitent sur la construction de l'identité et la question de l'émancipation par rapport à la religion. On va finir sur une chanson, Paul, c'est toi qui l'as choisi, de Todrick Hall, est-ce que je l'ai bien dit, et le titre c'est Proud.
Oui.
Merci. Merci Damien à la technique. À bientôt. As far back as my brain will let me travel, I remember my grandma telling me, Todrick, there are three things in life you can't escape. Death, taxes, and Sunday school. Well, turns out she was right. Come rain or shine, I was there every single Sunday morning service. And since all my grandma's other 11 grandsons took to playing sports and chasing women, they left all the singing to me.
When I reach those gates, when I see your face, I hope you're proud of me. I hope you're proud. 'Cause I'm spending all my days trying to find a way to make you proud of me. To make you proud. 'Cause I just wanna be a
soldier in your army. I'm all yours if you want me. Probably sang those songs a million times growing up, but they always felt so good to me. So much soul baked into the lyrics and the melody, you couldn't help but stomp and clap when you heard them. I didn't always know exactly what I was singing about. All I know is I felt something in those songs I couldn't explain. When I stand before your throne, when you call me home, I hope you're proud of me. I hope you're proud. 'Cause I know it won't be long. I'm fighting hard and strong to make you proud of me. To make you proud. 'Cause I just wanna be a
soldier in your army.
Yeah. Different.
And in the small town of Plainview, Texas, where I'm from, people like to let you know just how different they thought you were. They called me weird, punk, faggot, sissy, but my mama just called me special. I don't remember much from my childhood, but one moment I do remember vividly. Partially because it changed my life, but mostly because I don't have that many moments with my father to remember.